prendrai d'hôtel le pays où l'on n'arrive jamais. Cinquième cassette, première face, page 113. Monsieur Draper conservait précieusement tout ce qui avait appartenu à Hélène. Il ne voulait pas cependant installer ce bric-à-brac dans ses appartements et il avait réservé pour cela le coin d'un grenier encombré par de nombreux meubles qui avaient cessé de plaire. Hélène retrouva un monceau de jouets, des livres et une petite chaise qui lui avait appartenu et qu'elle avait cassée. Au milieu des livres, j'ai découvert ce livre d'images. Il était enveloppé de cellophane et entouré d'une ficelle dorée. Je l'ai emporté dans ma chambre. Avant de l'ouvrir, je me suis assise et je l'ai posé sur mes genoux. Alors, je me suis souvenu que je l'avais eu il y avait très longtemps et que lorsque je l'avais regardé pour la première fois, je n'étais pas dans la maison de M. Draper. Les jeunes enfants ont souvent la manie de garder un objet avec eux quand ils s'endorment. Ils le retrouvent chaque soir et s'ils ne le tiennent pas dans leurs mains, ils deviennent maussades et trouvent difficilement le sommeil. Tout d'un coup, continua Hélène, j'ai revu un ancien lit où j'avais dormi quand j'avais 5 ans. Jamais je ne m'endormais sans le livre dans mes mains. À côté du lit, une fenêtre, et par la fenêtre, le matin, je voyais la campagne. Cette vue de la fenêtre m'avait frappé. Je n'avais jamais cessé d'y songer pendant tout le temps où j'étais chez M. Draper, surtout le soir, quand je me couchais. Mais je croyais que c'était de l'imagination, parce que la campagne derrière la fenêtre avait quelque chose de bizarre. Hélène parlait à mi-voix. Quand elle arriva à ce point de ce récit, elle baissa encore le ton, et ce fut à l'oreille de Gaspard qu'elle poursuivit. Une drôle de campagne, des chênes, des bouleaux et en même temps des palmiers, une forêt avec une clairière. Un peu plus loin, on apercevait une mer bleue. Avant d'ouvrir le livre, j'ai été sûr que c'était une chose vraie.
Ça ne peut pas être vrai, dit Gaspard.
Je me suis souvenu aussi que lorsque j'avais le livre, j'étais très malade. Des gens venaient près de moi, mais je ne peux pas me rappeler comment ils étaient.
Tu étais malade, dit Gaspard. Ton pays, c'est une hallucination.
Moi non plus, je ne croyais pas que c'était possible, que j'aie été dans une campagne avec des chênes, des bouleaux, des palmiers et la mer. Il y avait d'autres détails aussi qui me revenaient. Je voyais une file de palmiers sur une terre noire. Il y avait un pommier près de la fenêtre. Un jour, une branche de pommier poussée par le vent est entrée dans la fenêtre.
Et il y avait aussi des palmiers, demanda Gaspard.
Il y avait des palmiers. J'ai été sûr tout à fait quand j'ai ouvert le livre.
Hélène montra le livre à Gaspard. Il le regardait sous la lumière de la petite lampe. On entendait toujours la mer. Gaspard songea qu'il devait être 2 heures du matin. C'était un livre d'images comme on en donne aux très jeunes enfants. Quelques phrases imprimées en gros caractères. Un conte de Grimm avec un géant et un tailleur. Rien de particulier dans ces images. Entre les pages étaient serrées des plantes et des feuilles séchées qui semblaient très anciennes. Hélène montra à Gaspard un chaton de bouleau, une renoncule, une longue foliole de palmier et une petite algue.
« C'est impossible, » dit Gaspard.
« Il y a autre chose encore, » dit Hélène.
Sur la page de titre, Gaspard vit de grosses lettres malhabiles, un peu effacées. Il lut ces mots. Maman génie, J-E-2-N-Y, au grand pays.
qui était Maman Jenny ? Reprit Hélène. Si c'était la mienne, pourquoi m'a-t-elle quittée ? Je croyais revoir un visage avec de grands cheveux blonds. Je n'étais pas sûre, mais j'étais certaine qu'il y avait un pays qui était mon pays et qu'on appelait le grand pays.
Quel pays ? Dit Gaspard. Ça ne peut être ni en Belgique, ni en France, ni en Afrique.
C'est de la folie de chercher ce pays, dit Hélène, mais je ne peux pas m'empêcher.
Tu n'as pas questionné Monsieur Draper ?
J'ai caché le livre. Je ne lui ai jamais dit que j'avais retrouvé le livre. Quand j'ai questionné Monsieur Draper, il a haussé les épaules. Il ne savait pas qui était Maman Jenny. Il m'a dit qu'il ne savait pas. Je lui ai parlé d'un grand pays. Il m'a répondu que je rêvais. Alors, je me suis décidé à quitter la maison.
Mais comment voulais-tu chercher, puisque tu ne savais rien ?
D'abord en Belgique. Regarde sur l'autre page. Il y a même les mêmes mots, écrits en flamand.
Ce n'est pas une raison, dit Gaspard. Jenny, ça n'est pas un nom flamand.
Ça n'est pas une raison, convint Hélène. Mais je pouvais commencer à chercher en Belgique. Je me suis sauvé. J'ai pensé d'abord à la mer, et je suis allé le long de la mer depuis Ostende,
ou Ostende,
jusqu'à Malo-les-Bains,
M-A-L-O, trait d'union L-E-S, trait d'union B-A-I-N-S.
On m'a rattrapé à la frontière française. La deuxième fois que je suis parti, j'ai voulu visiter la forêt. Je suis arrivé, par hasard, à Lominval.
Mais près de la mer, reprit Gaspard, il n'y a pas de forêt de bouleaux et de chênes, et dans la forêt, à moins que ce ne soit la Meuse qui ressemble à la mer, mais tu n'y trouveras pas un palmier.
Je suis sûr qu'il y avait de grands palmiers et la mer. J'ai maudit cette mer et ces palmiers parce que cela n'avait pas de sens, et pourtant, c'est vrai.
Gaspard ne pouvait distinguer dans l'ombre le visage d'Hélène, mais il croyait voir ses yeux animés de leur cruelle flamme. Elle ralluma la lampe et ouvrit encore le livre. Deux autres mots écrits en haut d'une page. « Tu viendras ». Gaspard épela à mi-voix les deux mots. « T-U-V-I-E ». N-D-R-A-S. Hélène les répéta après lui.
Tu viendras. J'ai l'idée que c'est un pays très pauvre. Je ne sais pas pourquoi, malgré sa beauté, et que mes parents sont pauvres, dit Hélène. Toute ma vie est là-bas, et je veux vivre avec Maman Jenny.
Gaspard essayait de se représenter la comté qu'Hélène désirait retrouver. Il y avait des pommiers et une terre noire. Peut-être fallait-il d'abord chercher la terre noire. Hélène dit.
Si je retrouvais l'endroit, je crois que je le reconnaîtrais tout d'un coup.
Quand j'étais à Lominval, dit Gaspard, je ne savais pas qu'il y avait tant de choses dans le monde. Si tu parcours la forêt des Ardennes, tu ne trouves pas une forêt, mais 1000 forêts. J'ai rencontré un cheval pie. Il conta l'aventure du cheval pie, l'étrange accueil du coiffeur, parla de Théodule et de Niklas et des enfants de Niklas.
Je voudrais le connaître, dit Hélène. Il y a tant de choses et tant de choses à connaître. Promets-moi que tu m'aideras.
Il faut réfléchir, dit Gaspard. Mais je dois regagner mon réduit avant qu'on ne vienne ouvrir ma porte.
Nous nous reverrons demain, dit Hélène.
Elle aida Gaspard à se glisser dans le hublot. Il y parvint non sans difficulté. Pendant la journée qui suivit, Gaspard somnola en lavant la vaisselle et le soir il s'endormit aussitôt au fond de son réduit. Il fut réveillé par le bruit d'un objet qui frappait son hublot. Hélène avait attaché une clé au bout d'une ficelle et la balançait contre le hublot. Il se leva, desserra les écrous, et quelques minutes plus tard, il se retrouvait avec Hélène. Ils montèrent l'échelle et allèrent s'adosser à la grille de la cheminée.
« Il est minuit au moins, » demanda Gaspard. « 2 heures du matin, » dit Hélène. « Je t'attendais depuis minuit. J'ai surpris une conversation entre Parpoil et M. Drapeur. D'abord, ils ont parlé de toi. »
Parpoil était d'avis qu'il fallait remettre le garçon à la police dès qu'ils arriveraient à destination. Il voulait se débarrasser de lui et il envisageait aussi bien de l'abandonner sur le port. M. Drapeur s'était opposé à ses projets. Il désirait rechercher la famille de Gaspard. Jusqu'alors, personne n'avait pris la peine de l'interroger sérieusement. On savait seulement qu'il s'appelait Gaspard et l'on n'attendait de lui aucun renseignement supplémentaire. On le prenait pour un de ces voyous abandonnés qui rôdent dans les bas quartiers des grandes villes. Mais M. Drapeur prétendait lui prêter assistance dès qu'il le pourrait.
« Vous avez déjà su mettre Hélène en confiance, n'est-ce pas ?» répondit aigrement Parpoil. « Vous vous ferez rouler aussi par ce jeune apache. »
« Il me semble avoir déjà vu ce garçon avant qu'il ne vienne sur le Beaumont, » disait M. Drapeur. « Je comprends mal les choses, certainement. »
Il était attristé de laisser Hélène aux Bermudes. Bien que Parpoil l'assurât qu'il ne lui serait pas difficile de revenir la voir plusieurs fois dans l'année en prenant l'avion, M. Drapeur regrettait de se séparer d'Hélène.
« Si je réussissais à revenir en Belgique, » dit Hélène à Gaspard, « et si M. Drapeur s'occupait de toi, nous pourrions nous débrouiller ensemble et rechercher ma vraie famille et mon pays. »
À ce moment, un roulement de tonnerre lointain se fit entendre. À l'horizon s'étendait une vaste nuée et de lointains éclairs jaunes la sillonnaient, tandis qu'au-dessus de la nuée, les étoiles toutes blanches brillaient d'un feu intense.
Quand il y a un orage, je crois toujours qu'il va se passer quelque chose, dit Gaspard. C'est ce que je veux, qu'il se passe quelque chose, dit Hélène.
La mer était absolument calme, toute noire et bleue. On n'entendait que l'eau brassée par l'hélice, tandis que les machines grondaient doucement. Le navire traversait une zone de calme en bordure d'un orage. Rien ne devait arriver cette nuit-là. Enfin, Hélène dit,
« On arrive après-demain jeudi dans la matinée. À midi, je vais chez les Smith. Monsieur Drapeur reste avec moi chez les Smith, mais il repart le samedi dans la matinée. »
Gaspard ne savait plus quel jour on était. Quand Hélène précisa que le samedi serait le 20 juillet, il éprouva une vive satisfaction de l'apprendre, quoique cela n'eût aucune importance.
« Alors, écoute-moi bien, » dit Hélène. « Toi, tu seras probablement enfermé dans ta cambuse. Mais la nuit, tu peux sortir par ton hublot et nager jusqu'au quai du port ou sur la plage. Je ne sais pas à quel endroit le navire mouillera.
Je nage presque pas, observa Gaspard.
Je te passerai une ceinture de sauvetage.
Mais pourquoi est-ce que j'irai sur la plage?
Tu ne resteras pas sur la plage. Tu chercheras une maison qui a 2 étages et qui a 2 ailes. Je le sais parce que j'ai entendu que Parpoil exigeait qu'on me loge au 2e étage et pas dans une des ailes. Il prend les précautions les plus inutiles. Devant la maison, il y a une grande grille. Elle est au commencement de la plage lorsqu'on vient du port.
Entendu, dit Gaspard. Et après?
Après, tu m'apporteras une corde.
Tu ne peux pas l'emporter dans ta valise.
On fouille toujours mes bagages, dit Hélène.
Mais comment te passer la corde si tu es au 2e étage?
Je te donnerai une balle avec un fil attaché après. Tu me lanceras la balle par-dessus la grille. Quand je l'aurai, tu noueras le fil à la corde et je tirerai.
Non, dit soudain Gaspard.
Tu ne veux pas?
Je ne veux pas.
Gaspard songeait que dès qu'il se mêlait de quelque affaire, il ne manquait pas de se produire une catastrophe. Il ne savait pas comment expliquer cela à Hélène. « Ne peux-tu pas attendre, dit-il. 2 ans aux Bermudes, qu'est-ce que c'est? Tu connaîtras un pays nouveau, tu continueras tes études, et quand tu reviendras, tu pourras plus facilement chercher ta famille et l'aider, puisque tu dis qu'elle est pauvre. » « Je voudrais être avec eux maintenant, dit Hélène. Je voudrais travailler avec eux. »
« Tu ne seras pas heureuse, dit Gaspard. Personne ne sera heureux.
« J'aime mieux travailler du matin au soir que de rester chez les Smith ou chez M. Draper. » Hélène répondait à Gaspard sans manifester aucun mécontentement. Mais le ton de sa voix marquait qu'elle était résolue à ignorer Gaspard si celui-ci refusait de la comprendre. Gaspard lui parla de ses journées à Lominval et voulut lui montrer qu'elle n'était pas faite pour de telles occupations, plus ennuyeuses que les légères contraintes qu'on lui imposait maintenant, non sans lui donner tout ce qu'elle pouvait désirer, voyage, sport, jouets. Hélène demeura indifférente à ses observations.
« Je crois que j'appartiens à une famille d'ouvriers ou de pêcheurs, dit-elle. Je veux être avec eux. »«
Tu ne sais rien sur ta famille, reprit Gaspard. »«
Je ne sais rien. » Gaspard garda le silence. Hélène demanda. « Tu ne m'aideras pas à retrouver Maman Génie et le grand pays ?»
Hélène alluma sa lampe. Gaspard vit qu'elle souriait avec insouciance. « Il faudra une corde assez longue, dit-il simplement. J'en trouverai une dans le bric-à-brac de ma cambuse. » Gaspard devait faire les 4 volontés d'Hélène. C'était une nécessité. Il ne pouvait s'empêcher de croire tout ce qu'Hélène croyait. Il fut convenu que Gaspard viendrait lancer la corde à Hélène dans la nuit du vendredi au samedi et qu'ils regagneraient ensemble le bateau peu de temps avant l'appareillage. Ils nageraient jusqu'au bateau et rentreraient par le hublot où Gaspard pouvait aussi fixer une corde avant de partir en expédition. Hélène se cacherait dans la cale, en un coin qu'elle connaissait et où l'on ne viendrait pas la trouver. Elle ne pensait pas rester longtemps cachée. Dès qu'on serait au large, elle se découvrirait. Monsieur Draper, qui ne tenait pas à se séparer d'elle, la ramènerait avec lui en Belgique. Le lendemain, Gaspard trouva dans sa cambuse un filin léger. Il s'assura de sa résistance. Hélène lui fit parvenir une ceinture de sauvetage, une balle de mousse assez lourde et une bobine de fil bi. Gaspard ne monta pas sur le pont cette nuit-là. Le deuxième matin, Gaspard fut tiré de son réduit comme d'habitude. Maître Sedagne, le cuisinier, lui fit faire quelques besognes. Puis on prépara le petit déjeuner. Dans cette cuisine, on n'avait jamais aucune nouvelle du dehors. À un appel de sonnette, on plaçait les plats et tout ce qui était nécessaire sur un monte-charge qui s'élevait jusqu'à la salle à manger et redescendait aussitôt. Ce jour-là, on entendit la sonnette plus tôt que d'habitude. Vers 9 heures, tout le travail était terminé. Maître Sedagne ordonna à Gaspard d'astiquer les cuivres, puis il sortit et ferma la porte à clé. Gaspard entreprit machinalement son asticage. Peu de temps après, les mouvements du navire s'apaisèrent, puis ils cessèrent tout à fait. Enfin, les machines stoppèrent. Gaspard entendit le bruit de la chaîne d'ancre qui se dévidait dans les cubiers. Après quoi, ce fut un silence total. Gaspard se leva et chancela. Habitué maintenant aux roulis et aux tangages, il éprouvait un vertige sur le plancher parfaitement ferme entre les cloisons immobiles. Gaspard alla ouvrir son hublot. Sous le ciel bleu, une ville s'étendait. Des villas, des maisons blanches, des palmiers, des arbres inconnus. Le yacht était amarré à l'entrée du port, à une encablure d'une longue plage de sable. On entendait des klaxons et une vague rumeur qui venait du port.
Assez loin, des enfants jouaient sur la plage. Gaspard les regardait comme il aurait regardé les anges du paradis. C'était inespéré pour lui de voir cette vie paisible d'une île pleine de lumière au milieu de l'océan. Après avoir rêvé pendant un quart d'heure, il reprit son asticage. Le maître coq vint passer le nez à la porte.
« Aujourd'hui, je descends à terre. Tu feras la cuisine pour les deux marins qui restent à bord. Tu mangeras seul ici. » Il referma la porte.
À midi, l'un des marins vint chercher la tambouille. « Est-ce que je peux aller sur le pont ?» demanda Gaspard.
« Défendu, mon garçon. Tu restes dans ton trou jusqu'au soir, puis on te met dans le placard au balai.
Ordre. »
« Ordre de Monsieur Parpoil. »
« Rien qu'une minute, » dit Gaspard. Le marin l'examina des pieds à la tête, puis il lui fit signe de venir. Gaspard n'était pas encore monté en plein jour sur le pont. Il fut tellement ébloui par le soleil qu'il pleura. Le port n'était pas très vaste. Quelques cargos écrasés de chaleur. Plus loin que les bateaux, c'étaient les maisons, les jardins et le ciel immense. On était dans une baie et il y avait une autre plage sur le rivage opposé à celui non loin duquel le Beaumont était ancré. Sur quelle plage se trouvait la maison d'Hélène?
« Monsieur Drapeur est allé à terre ?» demanda Gaspard.
« Tout le monde est descendu, » dit le marin. « Ils sont dans la maison, là-bas. »
Le marin indiquait une grande maison blanche, flanquée de deux ailes, qui s'élevait peut-être à 1 kilomètre du port. Il semblait qu'on aurait pu la prendre avec la main comme un jouet, tant la lumière était pure et annulait toute distance. Gaspard examina longuement la maison, ainsi que le voisinage.
« Maintenant, il faut rentrer, » dit le marin.
Gaspard passa ce jour-là, ainsi que le lendemain, dans la cuisine. Le marin venait chercher les repas, et à cette occasion, il permettait à Gaspard de monter sur le pont pendant quelques instants pour respirer l'air. Des bouffées d'essence se mêlaient à des parfums de feuillages et de fleurs. Gaspard fit confirmer à l'homme que le départ restait fixé aux premières heures du samedi.
« Tout le monde sera à bord vers minuit, et on part à l'aube. »
Gaspard attendit donc minuit, le vendredi. Il n'avait aucun moyen de savoir l'heure, mais par le hublot de son réduit, il put entendre le canot qui abordait le yacht. Jacques Parpoil et M. Drapeur parlaient dans le canot.
« Allons boire, » dit M. Drapeur, « je ne dormirai pas cette nuit. »
Gaspard attendit encore un peu, puis il fixa une corde à la charnière du hublot et la glissa au dehors. La grande difficulté fut de s'équiper avec la ceinture de sauvetage, car il ne pouvait la revêtir qu'une fois sorti et suspendu à son filin. Il garda simplement son pantalon. Il avait mis dans sa poche la balle et la bobine et suspendit à son cou la brassée de corde. Quand il fut descendu dans l'eau, il rama doucement avec les mains et sortit de l'ombre du bateau. Il se trouva inondé par un vif clair de lune. La distance n'était pas longue entre le bateau et le rivage. Gaspard suivit une petite jetée. Il mit pied à terre à l'extrémité du port. Il se dirigea vers la plage et cacha sa ceinture dans le sable. À ce moment, il se sentit tout à fait libre. Les lieux étaient déserts. Il se mit à courir devant les façades des villas. Il arriva à une allée entre les jardins. Il eut le soudain désir de s'y engager. Il ne pouvait pas être venu de si loin sans voir cette ville étrangère. Dans la clarté de la lune, il distinguait des buissons de fleurs et des arbrisseaux. Il parvint à une avenue qui allait vers le port. Au bout de l'avenue, une place avec des magasins fermés. Il aperçut un policeman casqué de blanc qui traversait la place. Il rebroussa chemin, obliqua dans une rue vers la campagne. Au-delà des maisons s'élevaient des collines baignées de lumière. Des arbres sur les collines, mais alentour une terre assez aride. Il arracha une tige d'herbe sèche et la fourra dans sa poche. Il respira longuement. Il revint sur la plage. Ce ne fut qu'après un temps assez long qu'il découvrit la maison d'Hélène. Au-dessus d'une marquise en verre de couleur, au deuxième étage, une fenêtre était ouverte et une petite lumière brillait. Chapitre 8. Le retour. C'était une maison ancienne, assez semblable à une maison d'Europe. Devant, il y avait une longue grille faite d'entrelacs et surmontée de pics. La distance entre la grille et la maison n'était que de quelques mètres. Hélène parut à la fenêtre. Elle aperçut Gaspard et aussitôt, elle fit un geste pour lui signifier de lancer la balle. Gaspard déroula le fil de la bobine. Il en attacha à la corde, puis il se recula un peu afin que la balle passât sans difficulté par-dessus la grille. Le coup fut manqué. La balle rebondit sur la marquise. Cela ne fit qu'un léger bruit. Gaspard tira le fil et il ramena doucement la balle. Il put cueillir la balle à travers la grille. Il cassa le fil, le renoua, et au troisième essai, Hélène parvint à saisir la balle. Gaspard soutint la corde, tandis qu'Hélène tirait peu à peu. La corde, mince et légère, se déroulait comme un serpent dans la cour, puis elle sembla monter toute seule. Elle franchit sans difficulté le bord de la marquise et glissa sur le verre avec un faible crissement. Dès qu'Hélène serait dans la cour, elle aurait encore à franchir la grille, mais comme elle connaissait les lieux, elle trouverait sans doute une issue plus facile du côté du jardin. Avant d'enjamber la barre d'appui, Hélène regarda Gaspard. Ils ne pouvaient pas se parler. Un grand silence régnait alentour. On entendait seulement de très légères vagues qui se dépliaient. C'était la marée descendante. Hélène se rendit bientôt compte qu'elle devait éviter la marquise et elle imprima à la corde un balancement assez prononcé. Elle descendit avec lenteur en se balançant ainsi au niveau de la fenêtre du premier étage, puis elle s'efforça de gagner une mince cimaise de briques vernies qui partait de l'extrémité de la marquise. Gaspard suivait avec une attention passionnée les moindres gestes d'Hélène. Pourquoi n'avait-elle pu attacher sa corde à une autre fenêtre que celle qui donnait sur la marquise? Sa gouvernante habitait-elle la pièce voisine et Hélène n'avait-elle pas accès à d'autres pièces? Avait-on voulu prendre des précautions extrêmes pour empêcher toute évasion? Ces questions inutiles filaient dans la pensée de Gaspard au moment où Hélène toucha la cimaise du bout du pied. Elle ne pouvait pas y prendre appui, mais cela lui permettait d'accentuer le balancement et en se laissant glisser d'un coup, elle franchirait l'obstacle de la marquise. Est-ce que la corde ferait du bruit en se rabattant sur l'extrémité des plaques de verre? Pendant un instant d'une brièveté inouïe, Gaspard eut l'impression d'une descente merveilleuse. Il ne put retenir un cri. La corde venait de se rompre. Hélène heurta le rebord de la marquise, dont les verres volèrent en éclats et elle tomba dans la cour, les bras étendus. Son corps s'étala sur les dalles et elle ne bougea plus. Gaspard ne devait jamais oublier cette chute, qui lui avait paru légère et douce dans la clarté de la nuit. Mais Hélène gardait une effrayante immobilité. Gaspard ne pouvait pas franchir la grille. Il appela de toutes ses forces. La maison s'était déjà éveillée. Des lumières s'allumaient. Un homme en pyjama sortit sur le perron, suivi d'un Chinois vêtu d'une longue chemise rouge et de deux femmes. Tous ces gens parlaient anglais. On releva Hélène. Gaspard aurait voulu se précipiter vers elle. Le Chinois qui l'avait aperçu lui jeta des injures en anglais. Gaspard ressentit une terreur inexplicable. Il se sauva au moment où l'on transportait Hélène dans la maison. André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais, 5e cassette, première face, page 127.